La première.
Are you ready?
20h-21h.
Ok.
Le monde est un village.
Didier Mélon.
Belle soirée, bienvenue, merci d'être sensible à notre proposition. Vous savez qu'à l'occasion de la 20e saison du Monde est en Village, nous organisons, nous mettons en place des moments de rencontre avec des cartes blanches où des musiciens, des musiciennes nous rejoignent en studio pour nous faire part des musiques qui sont importantes pour elles et pour eux. Et mon petit doigt me dit que ce soir, nous allons parler de polyfacette, de multimétier, avec notre invité qui s'appelle Laure Stellin. Il sera question de souffle, il sera question de sons qui guérissent aussi, il sera question de profil, de parcours forcément intéressant. Cette carte blanche, eh bien, elle était imaginée et concrétisée avec l'apport, le soutien, la collaboration de Sarah Peer et de Triple Axel, plus que vertigineux.
Le monde est un village.
20h-21h sur la première.
Les cartes blanches sont évidemment à écouter en direct sur l'antenne de la première. Vous pouvez les retrouver via RTBF Ovio. Il y a des images aussi, quelquefois, qui accompagnent nos programmes, des vidéos. Donc RTBF Ovio pour revivre ça quand vous le voulez, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous allons retrouver, dans un premier temps, Laure Stellin avec un musicien à ses côtés, c'est Robin Scott Fleming. Bonsoir Laure Stellin.
Bonsoir Didier.
C'est une carte blanche, c'est donc vous qui allez nous inviter à parcourir certains disques, certaines productions. Vous allez nous inviter à nous rapprocher de certains artistes, voilà, des choses qui vous ont aidé à grandir, à évoluer dans un parcours de musicienne, de souffleuse. Vous avez toujours été portée sur le souffle, Laure?
En fait, je voulais faire de la flûte traversière quand j'avais 5 ans. Et j'étais très fâchée parce qu'on m'a dit que j'étais trop petite. Que
c'est rare de commencer la flûte à 5 ans.
Flûte traversière, c'est pas possible. Mais je voulais, c'est ce que je voulais. Et donc je me mettais devant un miroir chez moi, petite. Ouais. Et j'imitais la posture que je trouvais très noble et très élégante du flûtiste. Et on m'a mis à la flûte à bec. Donc j'ai joué le jeu, mais ça a été long en fait parce que... j'ai pu commencer qu'à 11 ans, en fait, la flûte traversière. Donc pendant 6 ans, j'ai fait de la flûte à bec. Donc j'étais effectivement déjà souffleuse. Et la flûte traversière, je voulais jouer. Je voulais jouer une partita de Bach. C'est à mon premier cours, je suis arrivée avec la partition de la partita en la mineure de Bach. Et mon prof m'a dit, ça sera dans 10 ans. Et là, j'étais encore plus fâchée. Et je lui ai dit, non, mais ça fait 6 ans que j'attends. Donc je ne veux pas attendre encore 10 ans. Et j'ai beaucoup insisté. En fait, il m'a permis de jouer les 3 premières notes pour me démontrer à quel point il fallait attendre, que c'était trop tôt. Donc je me suis rendue après l'expérience.
C'est amusant parce qu'il y a certains instruments dans la musique auxquels on ne peut pas accéder lorsqu'on est enfant. La flûte traversière, la harpe, impossible. Et pourtant, il y a des motivations, il y a des personnes opiniâtres dont vous faites partie qui n'en démordent pas.
Exactement. Ben oui, en même temps, souvent quand on me demande pourquoi j'ai fait de la flûte, En fait, je pense que c'était Bach que je voulais jouer. Et je pense que si on avait eu les partitas, on avait qu'un seul, enfin, on avait très peu de disques de Bach à la maison. Et il y avait ce disque de Maxence Larrieux, la partita. Et c'était ça que je voulais faire. Mais si on avait eu les partitas pour violon, peut-être j'aurais voulu faire du violon. Ou les suites pour violoncelle, j'aurais fait du violoncelle. Et je me souviens encore du disque. Je me souviens comment il est habillé, Maxence Larrieux, sur le disque. Je me souviens de sa posture exactement. Et je m'asseyais dans le salon, j'écoutais ce disque avec la pochette sur les genoux, religieusement, en fait. Et c'était ça que je voulais jouer. Et donc c'est vrai qu'après, quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas tant de pièces de Bach pour flûte, que finalement il y avait peut-être d'autres instruments qui jouaient beaucoup plus, heureusement j'ai découvert après les œuvres pour orchestre et les passions en musique ancienne.
Une motivation très orientée musique dès le départ. Est-ce que la maison de votre enfance, c'était une maison qui était gorgée de notes de musique, d'amis, de parents qui ne juraient que par la musique, alors ?
Il n'y avait pas vraiment de musiciens dans mon entourage, mais mes parents aimaient écouter de la musique. Et le dimanche, c'était le jour de la musique. Et donc, il y avait vraiment un rituel quand on avait du temps, qu'on se levait plus tard. Je me souviens, mon papa mettait de la musique dans la maison et ça résonnait dans l'appartement. Et en fait, c'est des souvenirs très lumineux de se lever encore dans un demi-sommeil. Il y a la lumière qui rentre dans le salon et il y avait le Messie de Handel et il y avait le Requiem de Mozart. Je me souviens, il y a des choses qui revenaient comme ça. Et puis voilà, mes parents écoutaient les Beatles.
Ah, quand même. Ce n'est pas uniquement un profil classique.
Pas que. Il y avait quand même beaucoup de classiques. Beethoven, les symphonies de Beethoven. Mais qu'est-ce qu'ils... Oui. Et puis, je me souviens, ils adoraient les voix bulgares. Donc, il y avait souvent les voix de femmes bulgares, là, très, très...
Au perché.
Rustique comme ça, des voix un peu rêches, c'est une technique spéciale, hein, je crois, et ça résonnait aussi dans la maison. Oui.
Ben voilà, le pied à l'étrier, un instrument, et puis l'envie de devenir musicienne professionnelle, assez vite.
C'était pas si clair, pour moi c'était flou, qu'est-ce que c'est être professionnel, pour moi c'était faire de la musique, jouer. Après, comment ça allait se manifester, c'était pas si clair. Ça a mis du temps à... Je viens d'une famille où il faut faire un métier sérieux quand même.
Voilà. Ah, donc vous avez un métier sérieux ?
C'est-à-dire, moi j'ai été fonctionnaire à un moment dans une vie antérieure de me lancer. Oui, parce que j'avais quand même obéi à l'injonction qui n'était pas vraiment dite, qui était un peu... C'était du non-dit, mais c'était quand même très présent, la sécurité, l'emploi, etc., etc. Oui, donc j'ai été fonctionnaire 2 ans.
Je vous imagine pas comme fonctionnaire.
Ça m'a pas trop convenu.
Vous connaissant maintenant, j'ai un petit doute, mais voilà. Vous êtes revenu donc dans le droit chemin.
Voilà.
Et nous allons écouter ce soir des musiques qui vous font du bien, qui vont nous faire du bien, j'en suis sûr aussi. Et nous allons écouter dans un premier temps une mélodie traditionnelle qui vient de Turquie à ma connaissance. Oui. Et elle est jouée par Joël Grara. On en dit quelques mots ?
C'est-à-dire que à une époque, j'ai travaillé dans une boutique de disques.
Vous avez fait ça aussi ?
Oui, voilà. Et c'était génial parce que je découvrais les disques. Et en fait, c'est quand le disque est arrivé dans la boutique, c'est comme ça que j'ai découvert Joël Grara. Et j'étais émerveillée par déjà cette dextérité de percussionniste, mais aussi toute cette ouverture, cette créativité. Donc il mélange les styles. Hein. C'est son disque qui s'appelle Paris, Istanbul, Shanghai. Donc déjà, il y a déjà une ouverture sur différentes cultures. Et Any Haven, donc le premier morceau, je l'ai beaucoup écouté parce qu'il y a à la fois la stabilité rythmique des percussions, mais il y a l'envolée du violon chinois. Et en fait, c'est un peu magique. Et en même temps, il y a du violon chinois et c'est une pièce d'origine turque. Et en fait, on sent, après, quand j'ai lu en fait, le livret, il explique ça. On sent qu'il y a une vraie rencontre de musiciens, presque comme de la musique improvisée. C'est très, très vivant, cette interprétation.
Ce disque est sorti en 2007. Joël Grara nous propose donc sa version de Any Haven. Thank you. Et oui, c'est une des versions de Niavent. Nous avons souvent écouté dans Le Monde est un village, je le concède, la version de Buren Açal, qui est un percussionniste turc. Vous connaissez peut-être l'oiseau, l'or ?
Non. Hein ?
Ben, c'est, voilà, c'est un percussionniste qui est complètement investi dans les traditions de son pays, qui a collaboré avec beaucoup de musiciens et il avait repris ce titre. Ben, ce soir... Je vais me taire, principalement, je vais laisser parler Laure Stellin, qui est notre invitée et qui partage avec nous quelques disques, quelques musiques qui l'ont vu évoluer dans la musique. Vous avez donc un CV, Laure, qui est long comme un bottin de téléphone, avec tous les métiers que vous avez faits.
Oui, en effet. J'ai un CV qui est fourni, on peut dire ça comme ça.
Donc vous êtes fière, contente, satisfaite ?
Oui, maintenant, oui. Ça n'a pas été si simple, mais on dit... voilà, j'ai un enseignant taoïste qui dit souvent que toute simplicité est le résultat d'une complexité résolue. Donc, on peut dire que maintenant, avec simplicité, je suis fière. Mais il y a eu, oui, une difficulté à m'identifier à une fonction, à... Voilà, c'est bah après tout le monde hein, travaille sur qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère. Mais en tout cas, non, ça a pas toujours été. J'ai pas toujours été fière. J'étais plutôt en train de me dire mais comment ça se fait en fait que c'est pas. Il y a pas. Il y avait l'évidence de la musique et en même temps il n'y a pas eu d'évidence d'identification à un milieu spécifique hein, puisqu'il y a la musique classique, la musique contemporaine, la musique baroque, l'improvisation, les musiques du monde et une fascination pour tous ces univers. Et je pense aussi que j'ai pas osé me voir comme créatrice pendant longtemps. Et en fait, ça, quand je discute avec des musiciens qui ont fait le conservatoire, ça arrive souvent. On est un peu écrasé par des grandes figures. Quand on écoute du Bach et du Beethoven, on va pas se dire créateur.
Parce qu'on voit surtout, principalement en vous, des interprètes et pas des créateurs.
Oui, et aussi parce qu'on fréquente des créateurs tellement monumentaux qu'on n'ose pas venir dire, mais moi aussi j'ai des choses... Enfin, quand il y a une œuvre aussi aboutie qu'une œuvre comme celle de Mozart ou Beethoven et qu'on a côtoyé ça, pour se dire créateur, enfin, faut être soit complètement inconscient, enfin voilà, et en même temps, si, à un moment donné, voilà, j'ai dépassé ça, et ça a mis du temps.
Et qu'est-ce qui fait la différence entre Beethoven et Laure Stellin ?
Bah, c'est pas le même langage, c'est pas le même langage, c'est pas la même époque. Et puis après, c'est très difficile de ne pas me comparer à Beethoven, mais ce que je peux dire, c'est que mon univers est très très intimiste, très très intimiste, et en lien avec quelque chose de ténu, qui est en lien toujours avec entre le son et le silence. J'aime tous les interstices en fait, j'aime tout ce qui est entre.
Mais vous savez, Laure, depuis que j'ai la chance de rencontrer des musiciens, je crois qu'ils me disent à peu près toutes et tous la même chose, dans des mots différents, mais ce qu'ils cherchent d'une façon singulière et collective, c'est quand même d'avoir leur couleur, d'avoir leur langage, leur musique, et petit à petit, on y arrive, non ?
Oui, oui, c'est se l'accorder, mais c'est aussi pouvoir... en fait, c'est prendre des permissions, et après... C'est tout un chemin, hein. C'est vraiment être à l'écoute aussi de ce qui est là. Et parfois, on est, occupé par des choses qui viennent de l'extérieur. Et en fait, pour créer, il faut vraiment être en lien avec ce qui se passe à l'intérieur et oser le mettre à l'extérieur. Et donc, c'est ce mouvement-là, en fait, qui est vraiment le travail. Là, c'est vraiment un travail.
Introversion ?
Introversion et puis accouchement.
Et le contraire d'introversion, pour vous, c'est quoi ?
C'est mettre en lumière, laisser voir.
Les percussions, par exemple, ça vous parle ?
Ah oui, oui. Ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup les percussions. Et en fait, à une époque, j'ai été appelée vraiment par les tambours à cadre, hein, qu'on appelle aussi les tambours chamaniques. Et donc, je suis allée chercher un tambour. Et c'était drôle parce qu'en fait, j'ai l'habitude d'aller jouer en forêt. Et donc, je voulais un tambour petit, maniable et léger pour aller marcher et jouer un petit peu et tout ça. Et en fait, je suis allée choisir. Il y avait plein de tambours. J'ai l'impression que je ne l'ai pas choisi. J'ai l'impression qu'il m'a choisi. C'est-à-dire que je suis tombée sur un gros tambour, lourd, pas très maniable. Mais c'était lui et pas un autre. Donc voilà.
On va écouter une composition qui s'appelle Le Serpent. C'est une mélodie qu'on connaît parce qu'elle a fait partie de l'univers de la télévision à un moment. C'était un générique. C'était Guem qui le jouait, ce titre. On va écouter ça et on va se laisser porter par cette transition, par cette transe-là. Jusqu'à présent, nous avons parlé de flûte traversière et nous sommes arrivés aux percussions avec Guem notamment. Ce sont des choix musicaux de Laure Stellin. Guem, ça vous permet de danser ?
Oui, oui, c'est ça. Donc la danse est très importante dans ma vie. C'est,
plus que la musique ?
Pour moi, c'est assez indissociable en fait. J'ai l'impression que toute musique peut être dansée. Et le silence aussi d'ailleurs peut être dansé. Donc en fait, c'est indissociable.
Et vous avez une formation de danseuse ?
Alors j'ai pas une formation de danseuse, j'ai énormément, énormément pratiqué la danse libre pendant des années. Je dansais 5 heures par semaine, je faisais des stages, je dansais. Et donc c'est... Oui, Guem, ça, en fait, quand ça m'accompagne pour des périodes... comment dire quand il y a une transition, quand il y a quelque chose de lourd, quand il y a quelque chose... à traverser, voilà, ça va être les percussions. Je vais mettre les percussions, ça va me permettre de, à la fois d'être ancré, mais à la fois d'inviter le feu pour laisser sortir tout ce qui a besoin de sortir. Et le mouvement, en fait, est une manière de traverser, pour moi, de traverser les émotions. Ça peut être un mouvement intérieur, ça peut être une danse intérieure. Quand on écoute de la musique, il y a une danse intérieure, je crois.
Par jour, vous pratiquez la musique combien de temps ?
Quand je prépare un concert, c'est entre 4 et 5 heures par jour. Il y a des périodes, si je suis plus active dans d'autres domaines, parce que je pratique aussi les arts martiaux, donc quand je suis dans des pratiques plus intensives au niveau corporel, je vais faire une ou deux heures de flûte, enfin voilà.
Vous êtes quand même surprenante, hein. On imagine quelqu'un d'extrêmement doux en vous voyant, et puis ouf, arts martiaux.
Ah oui, mais la douceur est la plus grande arme.
Il paraît, il paraît. Vous faites ça aussi, fantastique. Un autre choix musical, une autre production, concerne Lucila Galeazzi, voilà une interprète qui chante très bien, qui a travaillé évidemment avec l'arpeggiata. Et ce titre, qui est en fait une tarentelle, correspond à la personne que vous êtes, à vos envies ?
En fait, donc, moi, je me suis intéressée là, depuis plusieurs années au son de guérison. Et en fait, dans les sons de guérison, une des premières choses qu'on m'a apprises dans ma formation, c'est s'il y a des pièces qui sont très présentes dans votre vie, écoutez les paroles. Écoutez les paroles, écoutez ce que ça raconte. Et en fait, cette pièce-là, la Carpinaise, et moi, je n'avais pas compris ni écouté. Enfin, pas compris, parce que je crois que c'est un dialecte napolitain. Enfin, c'est une langue que moi, je ne comprenais pas et je ne savais pas de quoi ça parlait. Par contre, je l'avais écouté. J'étais tombée amoureuse, vraiment. Et donc, je suis allée mettre le nez dans le livret Et il se trouve que c'est une chanson traditionnelle de berger qui est en lien très fort avec la nature et avec la terre, ce qui effectivement me parle beaucoup. Et surtout, le refrain, c'est « Une femme fait ce qu'elle veut ». Et donc, j'ai découvert que c'était aussi une chanson sur la liberté des femmes, et notamment la liberté sensuelle, parce que c'est une histoire, c'est une histoire de rapprochement sensuel, sexuel. C'est pas très très clair dans les paroles, mais en tout cas, on comprend que c'est l'histoire d'une femme qui fait ce qu'elle veut avec son corps. Et donc, effectivement, je pense que ça a une importance pour moi, qui est assez centrale, par rapport à la situation des femmes en général. Et oui.
Vif la liberté, l'autonomie, tout
oui.
ça.
Oui. Oui, après, qu'est-ce qu'on met derrière? Parce que c'est des. Voilà, on brandit des grands concepts. La liberté. Plus j'apprends dans ma vie et plus je comprends que la liberté, c'est surtout faire des choix et assumer les choix qu'on a faits. Donc la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. C'est aussi ça, devenir adulte, c'est de comprendre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je deviens adulte en comprenant ça.
Et la liberté, être libre, c'est respecter l'autre aussi.
Oui, c'est ça. Être libre, c'est être à l'écoute, c'est avoir accès. C'est-à-dire, c'est sortir des enfermements. Mais les enfermements, c'est les préjugés, par exemple. C'est des enfermements. On n'est pas libre quand on a des préjugés. Donc, pour moi, la liberté, c'est une forme de disponibilité au monde. Et effectivement, donc une disponibilité à l'autre, ça suppose une tolérance. C'est ce que vous dites.
La Carpinese, c'est donc Lucilla Galeazzi, Marco Bisley et l'arpeggiata de Cristina Plouard.
Thank you.
Il y a des histoires de tarentelles sur ce disque, évidemment, la tarentelle, l'araignée, qui mord et qui met dans des dispositions de transe, finalement, et de danse aussi. Hein. Là, on rejoint peut-être l'autre facette de votre existence artistique, la musique, la danse, notamment, mais vous l'avez dit, il y a beaucoup de facettes à l'or stellin, donc petit à petit, à travers les disques aussi, ça nous permet de découvrir qui est la personne qui est en face de nous ce soir pour cette carte blanche. Les sons de guérison, c'est quelque chose qui peut paraître mystérieux, intrigant, et pourtant, c'est un son, c'est la disponibilité de quelqu'un à recevoir quelque chose, finalement comme un cadeau.
Oui, recevoir comme un cadeau et être accompagné. C'est-à-dire qu'on est accompagné par les sons, on est accompagné par la musique et on peut, si, comment dire, en fait les sons de guérison, c'est pareil, c'est aussi une expression qui peut paraître très pompeuse. En fait, c'est simplement savoir comment choisir les musiques et comment être accompagné, comment vivre des processus de vie facilités par les sons et la musique. Et donc ça peut être l'émotionnel, ça peut être des moments de transition. Après, il y a les effets plus spécifiques, physiologiques, qui sont ciblés.
Il y a une part de théorie, pratiquement, alors ça se passe comment? On est allongé, on reçoit la musique?
Ça dépend, il y a plein de possibilités. Disons qu'un massage sonore, oui, on est allongé et on reçoit la musique. Donc moi, quand je donne un soin individuel, je joue pour la personne et je joue en fonction de ce qu'elle m'a dit et de ce que je ressens. Souvent, c'est de ce que je ressens. Mais il y a aussi des techniques qui sont très anciennes, qui ont été transmises par les chamans, donc notamment une technique qui s'appelle le voyage en imagerie musicale, où là, en fait, l'accompagnant, puisque enfin, moi, je ne me considère pas comme thérapeute, mais comme accompagnante, choisit un voyage. Donc, c'est trois pièces, en fait, qui sont choisies spécifiquement pour la personne. Et la personne va vivre ce voyage avec un témoin. Donc, moi, je vais être témoin de son voyage. Et elle va me dire tout ce qui lui passe par la tête pendant son voyage.
Donc, la personne parle.
Oui, elle parle. Et en fait,
elle décrit ce qu'elle voit.
Elle parle en écoutant. Donc, elle écoute la musique et elle parle en même temps. Et en fait, en faisant ça, le mental analytique est déconnecté, ce qui permet en fait d'accéder à d'autres types d'informations que ce que le mental analytique a l'habitude de brasser. Et donc, les gens sont souvent étonnés parce que moi, je retranscris tout ce qu'ils me disent et après, on fait un entretien sur ce qu'ils ont dit. Donc, je leur redis. En fait, je suis miroir, je suis témoin, je suis miroir. Moi, j'interprète rien. Mais par contre, j'assure un contenant sécurisé et j'ai choisi aussi le contenu. Et voilà, et les personnes souvent ont des réponses par rapport à des questions qu'elles se posent dans leur existence. Enfin voilà, on a accès à d'autres. C'est un peu comme l'hypnose, hein. Donc on a accès à d'autres endroits.
Donc c'est un état modifié de conscience.
Exactement, exactement. Et c'est utilisé depuis très 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 longtemps par les chamans. C'est très ancien comme technique. Donc ça se faisait avec le chant, ça se faisait avec des instruments live. Maintenant, on peut le faire avec des disques. Mais en fait, on parle de la carpinèse. Et en fait, dans ce disque, moi, j'ai découvert ça très récemment, il y a des textes, des premières traces de la musicothérapie dans ce disque-là. Donc au XVIIe siècle, en fait, il y avait des textes sur les bienfaits de la musique et comment la musique pouvait guérir de la piqûre de la tarentule. Mais donc, voilà, ce disque-là, c'est, je pense, des plus usés de ma discographie. Il est beaucoup, beaucoup écouté. Et donc, il n'y a pas de hasard parce qu'il y a un lien avec les sons de guérison dans cet album.
Rien n'est perdu et tout se retrouve dans tout.
Voilà.
Et on pourrait même ajouter vice-versa. La nature est aussi très importante pour vous et une interprète qui honore souvent, plus souvent qu'à son tour même, la nature, c'est la chanteuse de Mongolie, Urna. Nous allons l'écouter avec ce titre qui va nous reporter dans une belle discographie de Urna. Si vous êtes intéressé par ce travail, c'est sans doute une artiste à suivre. Nous allons la retrouver ici avec des musiciens polonais, c'est le groupe Kroke.
Sanji dorji kemeh
Elle incarne si bien la Mongolie et ils incarnent si bien la musique traditionnelle de Pologne, Kroke et Orna. Ils ont travaillé ensemble pour ce titre choisi par Laure Stella et sur un disque plus récent qui s'appelle S.E.R. Serre, un album que je vous conseille d'écouter. Vous aussi, Laure, si vous avez envie, ça risque de vous faire du bien. En tout cas, chaque fois que nous l'avons diffusé dans Le Monde est un village, je vous promets, chaque fois, il y a eu des réactions, il y a eu des demandes. C'est quoi ce disque? C'est qui cet interprète? Donc, ça me fait dire qu'il y a quand même des signes de perception de la musique, des choses que vous devez être tout à fait consciente et que vous devez approcher au quotidien en accompagnant certaines formes de thérapie par les sons dont nous avons parlé. Évidemment. Concert, les soins par les sons, ce sont des choses a priori un peu différentes et pourtant, vous pouvez passer de l'un à l'autre, de l'une à l'autre.
Oui, alors je passe de l'un à l'autre. Ben, maintenant, je donne des concerts qui sont, je les ai appelés holistiques, qui sont des soins en fait. Hein.
C'est en solo que ça se passe.
Alors, c'est en solo que ça se passe. En tout cas, le prochain, ça sera en solo. Maintenant, je peux m'entourer, choisir des musiciens pour le faire. Mais après, c'est pas forcément évident de trouver des musiciens qui ont les deux casquettes, hein, en fait. Parce qu'il y a tout un travail sur l'intention, il y a tout un travail sur laisser passer, enfin, sur l'instant présent. Enfin, c'est pas facile à expliquer, mais en tout cas, oui, pour l'instant, c'est en solo. Quand je joue sur scène, souvent on me dit il y a quelque chose qui passe, qui est au-delà de juste un musicien sur scène de manière artistique qui va présenter un univers artistique, mais il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de... Alors on met des mots, hein. Il y a des gens qui parlent de chamanisme. Bon, moi je fais attention à ces mots parce qu'ils sont très connotés et puis ça peut être tout de suite très pédant. Enfin voilà. En tout cas, moi, quand je joue, ce que je fais, c'est que je me connecte aux gens qui sont là et à l'instant. dans un concert holistique, je vais vraiment accompagner chaque personne qui est là. C'est pour ça que pour l'instant, je travaille avec des petites jauges, maximum 30 personnes, pour sentir en fait chacun et être juste par rapport à... Donc c'est autre chose. De toute façon, les gens ont les yeux fermés, donc c'est pas un spectacle. Parce que aussi, moi j'aime bien dans l'aspect artistique de mon travail, l'aspect spectacle. Travailler sur l'image, enfin voilà, tout ça en fait n'est pas présent dans le concert holistique. Mmh. Donc c'est en ça que c'est assez différent.
Avoir un bon son, avoir un bon éclairage.
Voilà. Après, le son, c'est toujours primordial, mais effectivement, l'éclairage, dans les concerts holistiques, les gens sont dans la pénombre, il y a de l'encens, enfin voilà, c'est un autre cadre.
Bien. Urna et Croqueux, c'est donc le côté naturel. Vous avez parlé de forêt tout à l'heure, de tambour que vous utilisiez dans la forêt. C'est pour avoir plus de liberté, c'est pour avoir plus de confort lorsque vous jouez de cet instrument-là.
C'est parce que la nature, c'est mon premier lieu d'inspiration. C'est vraiment la nature qui va inspirer tout ce qui vient au niveau musical, même les mots. Enfin, donc quand je suis dans la nature, la musique arrive. Elle arrive parce qu'elle est déjà dans la nature. Hein. Donc pour moi, les plus grands musiciens, ce sont les oiseaux. Enfin, il y a déjà des musiciens quand j'arrive. En fait, moi, j'arrive, j'écoute. D'abord, j'écoute beaucoup. J'écoute le ruisseau, j'écoute le vent, j'écoute... Il y a déjà tout un concert. Donc en fait, ce sont eux qui m'inspirent, ouais.
Vous avez plein d'amis, en fait.
Exactement.
Dans la forêt. Ah, c'est bien. Vous écrivez aussi, là ?
Mais j'écris des textes et en ce moment j'écris des chansons que voilà.
Carrément des chansons.
En ce moment je fais ça, mais je sais pas trop.
Bon, je rajoute une ligne de votre CV, écrit aussi des chansons.
Je sais pas trop ce que voilà, pour l'instant c'est assez nouveau. C'est assez nouveau. En même temps, je dis ça quand j'étais petite fille, je faisais ça, puis j'ai laissé ça de côté, donc c'est pas si nouveau. Ah oui, ça me plaît, et puis surtout, il y a des petites ritournelles qui arrivent, donc je me dis, mais en fait, écris-les, puisqu'elles arrivent, accueille-les, quoi. Fais-leur une place.
Vous avez aussi choisi quelqu'un qui est musicien, qui a une grande notion de l'importance des paroles, c'est Atahualpa Yupanqui. Pourquoi lui ?
Alors, en fait, moi, je connais pas tellement ses chansons. En fait, je l'ai rencontré par ce disque de Roberto Ossel. Moi, j'aime beaucoup la guitare et Roberto Ossel, enfin, pour moi, c'est un guitariste exceptionnel, en tout cas, qui me touche très, très, très profondément. Et en fait, j'ai découvert ce disque et je l'ai écouté vraiment en boucle. Et je me disais, mais c'est qui ce Yupanqui? Alors, j'en ai parlé autour de moi. On m'a dit, mais c'est hyper connu, tu connais pas? Donc après, j'ai découvert effectivement qu'il y a un rapport aux mots. Mais je connais pas tellement ses chansons, en fait. Je pense que j'ai vraiment été séduite par cette musique traditionnelle qui est simple d'accès, vraiment facile d'accès, mais qui parle au cœur, enfin qui est... Il y a une grande générosité mélodique, je trouve. Voilà.
Des choses simples, mais dites sincèrement.
Oui.
Je crois que c'est une des marques de fabrique de Atahualpa Yupanqui. Voici un de ses titres, ça s'appelle La Pobrecita. Thank you. avec Laure Stellin que nous cheminons ce soir donc à travers une carte blanche dans Le Monde est un village. Un disque que Laure a écouté, elle nous l'a dit, en boucle. Et c'était en l'occurrence ici La Pobrecita. Ça vous permet de prendre possession d'un lieu, d'une humeur, d'une atmosphère, de vous sentir bien, ce genre de disque.
Oui, ça va accompagner un moment. Ça va accompagner un moment. Souvent, c'est le crépuscule. C'est la douceur. Hein. Enfin, voilà, ce disque-là, pour moi, c'est la douceur. Mais qui n'est pas si mélancolique, parce que parfois, il y a la mélancolie. Il y a un peu de mélancolie, mais oui, c'est comme une petite pluie fine, comme un massage avec le bout des doigts. Voilà, ça accompagne un moment.
Nous avançons dans votre proposition de disque et encore merci d'avoir répondu favorablement à cet exercice qui n'est pas toujours simple, facile et évident à réaliser, mais vous l'avez fait, donc bravo, bravo. C'est en l'occurrence là tout autre chose, je dirais, puisque nous partons dans l'univers américain avec une artiste que je ne connaissais pas. Elle s'appelle Martina McBride, mais elle reprend une chanson bien connue qui est signée Kris Kristofferson.
Oui. Eh bien, en fait, c'est un style de musique, la musique country, que je connais peu et que j'écoute peu. Mais voilà, c'était un été, on était un groupe de copains au bord de la mer et je suis montée dans une voiture et quelqu'un écoutait de la country à fond et m'a dit « Mais moi, je suis passionnée de musique country, tu connais pas ?» Alors, il a commencé à me faire écouter des trucs et ça et ça. Et je lui disais « Oui, bon, oui, oui. » Mais ça ne me touchait pas. Enfin, voilà. Et puis après, il n'a plus rien dit, il a mis ce disque. Et puis il a mis cette chanson. Et en fait, pour moi, ça a été... Donc je ne connaissais pas la chanson. Moi, je ne la connaissais pas. Mais je suis restée. Mais en fait, je lui ai demandé de me prêter le disque. Et après, j'ai écouté cette chanson. Et j'ai découvert que cette chanson avait été beaucoup chantée par plein d'interprètes différents. J'ai regardé la traduction des paroles. Et j'ai pleuré en écoutant cette chanson. Enfin, voilà. Et après, voilà, maintenant, je sais ce que c'est pour moi, cette chanson. C'est vraiment... C'est l'importance de la nuit, c'est-à-dire la nuit dans tous les sens. Donc il y a la nuit merveilleuse qui permet des temps de silence où on crée, mais il y a aussi la nuit, l'obscurité où on ne sait pas où on va, il y a la nuit angoissante. Enfin, c'est une chanson qui parle de la nuit et qui ne parle pas que de la nuit, qui évoque aussi, pour moi, le mystère d'une rencontre et le mystère de l'intimité. C'est une chanson sur l'intimité et avec beaucoup de pudeur, enfin voilà, ça me touche. Cette chanson me touche beaucoup. Et cette interprétation, en fait, parce qu'après j'ai écouté les autres interprétations pour savoir si c'était elle ou si c'était la chanson. Et en fait, je trouve que elle, il y a quelque chose de très très puissant qui se dégage de sa voix dans cette version. Et quand j'ai acheté l'album, j'ai vu qu'elle était enceinte quand elle a enregistré. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ressent. Et dans la grossesse, il y a ce rapport à l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a une création qui est là, mais qui n'est pas encore visible. Et donc, il y a le rapport à l'invisible. Et pour moi, tout était dans cette version. Le rapport à l'invisible. Donc, c'est une chanson que j'écoute très, très souvent.
Martina McBride, c'est elle, l'interprète.
Take the ribbon from my head. Shake it loose and let it fall. Lay it soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil tomorrow, Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone. and tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through.
Une chanson qui rappelle sans doute peut-être des souvenirs à certains d'entre vous. En tout cas, c'est Laure Stellin, notre invitée ce soir, qui nous la propose. Et c'est une écoute plus particulière encore avec cette version-là, uniquement, évidemment. Depuis que nous parlons, Laure, je suis assez partagé. Si je devais vous placer sur une ligne du temps, vous pourriez être dans chaque heure de la journée, mais aussi dans le côté intemporel. Vous semblez à la fois ancrée, mais très aérienne. Il y a, me semble-t-il, un peu de tout ça qui se mélange chez vous. Est-ce que... Pour vous, c'est, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais est-ce que c'est une évidence? Est-ce que vous vivez ça facilement? Vous pouvez passer de l'aube au crépuscule, à la nuit, et d'avoir ce côté intemporel, universel, qui se mélange à l'infini, sans cesse?
Est-ce que c'est une évidence d'appartenir? Mais c'est vrai que je ne m'identifie pas, soit à des moments, soit à des périodes, qu'il y a quelque chose... D'ailleurs, souvent, je suis étonnée quand les gens me racontent de manière très très chronologique des choses. Ils me disent « Ah oui, c'était en janvier 2011, il s'est passé ça, ça, ça ». Et en fait, pour moi, tout est circulaire. Donc j'ai vraiment une sensation circulaire des choses. Et c'est pas, je sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, mais pour moi, il n'y a pas de linéarité, en fait. Il y a un cercle, en fait, dans lequel tout est contenu. Et donc... Et j'ai l'impression que le temps est comme ça, et que l'histoire des hommes est comme ça, et que l'histoire est comme ça.
Dans la culture rome, on dit par exemple que le temps, c'est une roue, et c'est souvent un symbole qui est utilisé. Est-ce que vous êtes intrigué par la culture gypsy, rome ?
Je ne connais pas bien. Je ne connais pas bien, mais maintenant que vous me dites ça, je vais aller voir. Je vais aller mettre mon nez.
Ben voilà, vous nous avez fait découvrir des choses et peut-être que vous allez repartir avec quelques invitations pour aller écouter certains artistes, certaines productions. Nous allons nous quitter avec un musicien qui travaille plutôt dans l'univers des musiques de films. En tout cas, il a souvent été associé à cette démarche-là. Et pourquoi lui et pourquoi ce titre ?
Alors, pourquoi ce titre? Mais en fait, dans mes 20 ans, j'étais fascinée par le cinéma de Tarkovsky, donc complètement fascinée par ce cinéma. Ça a été vraiment quelque chose d'important. Dans Solaris, en fait, il y a cette pièce d'Artemiev. Donc Artemiev, c'est ce compositeur russe qui a écrit les musiques des films de Tarkovsky, mais aussi des films de Mikhalkov. Et c'est du Bach, donc j'ai tout de suite reconnu le prélude de Bach, mais voilà, arrangé... Il y a des sons qui sont... Enfin, c'est arrangé par Artemiev. Et il y avait un aspect art total dans ce moment du film. C'est-à-dire que c'est un moment d'apesanteur. Donc, il filme un couple en apesanteur. C'est un grand moment de tendresse. Donc, elle pose sa main sur le visage de l'homme. C'est un grand moment de tendresse en apesanteur. Et c'est en lien avec un tableau de Bruegel l'Ancien, donc l'hiver. Et il y a des images d'enfance avec un enfant qui fait du feu sur la neige. Donc il y a à la fois, enfin il y a tout ce qui me parle, c'est-à-dire il y a les éléments, le feu, l'eau, il y a le côté suspendu en fait des moments de grâce et il y a l'aspect contemplatif. Enfin il y a tout ce que j'aime et la musique de Bach. Et réapproprié, il se la réapproprie et il rajoute presque du bruitage. Donc ça commence par le son du lustre qui scintille. Donc c'est... En fait, pour moi, c'est vraiment un avant-goût de ce que j'aime faire maintenant dans la musique. C'est-à-dire ne pas faire de différence entre le bruitage et la musique.
Edouard Artemiev avec Solaris. Listen to Bach, je devine que vous écoutez aussi le Tarkovsky Quartet régulièrement. Non ? Ah, chouette, ben voilà, une nouvelle chose à écouter aussi.
Je pars avec des choses, c'est super.
Mais c'est bien, c'est un peu le principe de la carte blanche. Hein.
Ah oui,
on découvre les uns et les autres, certains univers et certaines personnalités musicales. Voilà, vous allez trouver tout ça facilement sur le label ECM, par exemple. Merci, Laure Stellin.
Merci, merci pour votre invitation.
Merci d'avoir répondu à notre signe de la main pour nous rejoindre ici en studio et de réaliser avec vous cette carte blanche. Bonne suite, alors je crois que ce ne sont pas les projets qui manquent et les envies qui vont faire défaut. Donc allez-y et faites-vous du bien et par ricochet, bah, nous en profiterons aussi, me semble-t-il.
Ah oui, avec grande joie. Avec grande joie.
Merci Laure, à bientôt.
À bientôt.
Heures, 21h.
Le monde est un village sur la première.
Didier Mellon.